Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez France Fréquence 7, c'est l'heure de notre magazine d'information. Alors, bonjour Quentin, bonjour Sylvain derrière les manettes.
Bonjour.
Alors que le gouvernement a présenté hier en Conseil des ministres le nouveau projet de loi sur l'immigration, les associations de défense des droits des étrangers se mobilisent pour dénoncer le texte.
Et oui, il est considéré à la fois lacunaire, simpliste, dangereux, manichéen. On notera d'ailleurs la formule de Darmanin qui annonce être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Ça laisse un peu perplexe.
Quelle subtilité. Pour en parler, on reçoit en studio Hervé Giot, président du MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples d'Aubenas.
Et pour le moment, tout de suite, c'est vos informations locales et l'agenda culturel de la semaine.
Le mouvement de résistance contre le projet de centre religieux à Saint-Pierre-de-Colombier continue.
Et oui, on n'allait pas s'arrêter là avec les enjeux en cours. Les collectifs d'opposants ont épluché l'étude d'impact environnemental sur laquelle s'était appuyée la préfecture pour autoriser la reprise des travaux. Et sans surprise, ils y ont trouvé des lacunes, des incohérences. Par exemple, la deuxième version du rapport, qui date de mai 2022, oublie complètement les conclusions de la première, qui notait pourtant un impact même faible sur les espèces protégées.
Pierre Pantel de l'Association nationale biodiversité rapporte dans le Dauphiné libéré que le dossier est grossier et mal ficelé. Je cite « J'ai l'habitude de dossiers de plusieurs milliers de pages. Là, en quelques dizaines de pages, il n'y a rien de sérieux. » Il note que l'étude exclut le couloir de la Bourge, alors que, précisément, c'est la zone qui comporte les grands enjeux. Même le Dréal, dit-il, a relevé des problèmes.
Et donc l'arrêté préfectoral autorisant la reprise des travaux est désormais assigné en justice par le collectif des Amis de la Bourge.
Autre info, vous étiez sûrement parmi nous mardi pour l'énorme manif contre la réforme des retraites à Aubenas. C'est un succès inédit, hein, d'après les syndicats. Il y avait 9600 personnes comptées avec une marge d'erreur de 400.
Et oui, et une très belle ambiance avec plusieurs sonos, une batucada survoltée et des personnes de toutes les générations, de tous les milieux socio-professionnels. L'intersyndicale affirme une fois de plus sa détermination à continuer le mouvement.
Donc quels sont les prochains rendez-vous, Quentin ?
Et ben, en ce moment même, là ce midi, en écho au rassemblement national organisé par les travailleuses et travailleurs sociaux à Paris, en Ardèche, on a organisé un pique-nique militant devant le Détas des Oliviers. C'est organisé par le collectif de la Sociale Castagne en partenariat avec la CGT et Force Ouvrière 07. N'hésitez pas à y passer, manifester votre soutien, recueillir des infos auprès des travailleuses et travailleurs du social.
Autre rendez-vous, c'est le 7 février, nouvelle mobilisation nationale et appel à la grève générale. En ce moment même, les assemblées générales dans le privé et dans la fonction publique continuent de préparer les jours qui viennent.
Avec un appel à la grève générale, toujours mardi 7 février. Un autre rendez-vous, du coup, proposé par l'intersyndicale, c'est le samedi 11 février. C'est un rendez-vous qui vise à inclure tout le monde, les chômeurs, les mamans, les travailleurs précaires, les saisonniers. Un énorme rassemblement massif et festif prévu à Aubenas. Notez la date tout de suite dans vos agendas, ça promet d'être une belle journée.
11 février. En matière de solidarité, on note la campagne de dons du Secours Populaire, la Tombola Donne Action, et c'est la seule levée de fonds pour les frais de fonctionnement du Secours Populaire, donc on ne loupe pas cette levée de fonds. Pour 2 euros, vous pouvez participer à la Tombola avec des lots qui sont incroyables. Une croisière, des vélos électriques, des abonnements de cinéma, des paniers de fruits et légumes, etc., etc.
Le Secours Populaire vous donne donc rendez-vous sur les marchés de la région dans les jours qui viennent. Rendez-vous, ils seront samedi matin sur le marché d'Aubenas, dimanche au marché de Vals-les-Bains et mardi prochain au marché de l'Argentière.
Et puis si l'histoire, l'archéologie, l'archéologie expérimentale notamment vous intéresse, Randa Ardesca, l'archéosite de Saint-Alban-Auriol, recrute 3 services civiques pour la saison 2023. C'est des services civiques d'une durée de 8 mois et qui débutent le 17 avril. Donc rapprochez-vous de Randa Ardesca, l'archéosite de Saint-Alban-Auriol.
C'était les petites informations locales de ce jour. On continue avec l'agenda culturel de cette fin de semaine. Ce soir, vous avez rendez-vous au cinéma Le Navire à 19h30 pour une soirée ciné-débat autour du film Goliath. Donc c'est dans le cadre du festival du film paysan. C'est un film de Frédéric Tellier qui raconte l'histoire de trois destins entrecroisés. France, militante contre les pesticides, Patrick, qui est spécialiste en droit de l'environnement, et Mathias, qui lui est plutôt lobbyiste de l'agrochimie. Il suscite dans le film une rencontre et donc des débats intéressants. La projection sera suivie d'un débat-échange. Ça se passe au Navire ce soir à 19h30.
Ouais, et je rappelle aussi que dans le cadre de ce festival du film paysan, il y aura d'autres projections, mais on en parlera peut-être demain dans Cinémascope, demain à partir de 12h10, Cinémascope sur fréquence 7. Le festival du film paysan, oui, qui va projeter d'autres films ce week-end à l'USAS notamment. Mais revenons à vendredi, donc demain soir à 20h30, il y a Diva Syndica, la compagnie Mise à Feu de Noémie Lamour et Jean-Siane Pierre, au Quinconce, 1000 ans de musique au féminin.
Et oui, mais c'est un spectacle qui met à l'honneur le matrimoine musical de l'Occident. Ça commence avec Hildegarde de Bingen, donc au Moyen-Âge, c'est le 15e siècle.
Plutôt. 13e siècle.
13e siècle. Jusqu'à Aya Nakamura, le Diva Syndica nous conte une nouvelle histoire de la musique occidentale, c'est celle des femmes.
Tiens, elles ont écrit la musique, elles ont fait la musique, c'est curieux.
Et comme dans tous les domaines de l'art, trop souvent oubliés, et enfin sur les devants de la scène. Deux divas syndicalistes qui nous présentent sous un angle humoristique et burlesque 10 siècles de musique remise au goût du jour. C'est un ovni musical et théâtral que vous propose les Quinconces avec ce duo extravagant.
Avec des places à 10 à 23 euros. Donc demain soir, vendredi à 20h30 au Quinconces.
Je tiens à rappeler que demain soir, c'est également la soirée au Bourneau, le concert de Smokey Joe and the Kid, un concert grandiose. C'est un hommage à la fois à la soul, la funk, le hip-hop. Il y a des cuivres sur scène, deux rappeurs, et c'est Fréquence 7 qui tiendra la buvette.
C'est ça, on va dire, qui tient la pompe à bière?
C'est nous qui tenons la pompe à bière, soyez nombreuses et nombreux. Je pense que ça va être une soirée très très enflammée, on compte sur vous.
Et puis c'est l'occasion aussi de soutenir votre radio en plus. Enfin, je n'incite pas du tout à boire de la bière, mais bon, au cas où, si vous avez soif, n'hésitez pas. Samedi 4, donc autre ambiance musicale, un événement de la SMAC au Teil, donc samedi 4 février à 21h, Paranda La Cruz, musique vénézuélienne et réunionnaise entre tradition afro-caribéenne et création musicale, un groupe percussif, très percussif. Et percutant.
Qu'on va découvrir dans un instant. Les places coûtent de 6 à 12 euros et en fait c'est le point d'orgue d'un week-end d'immersion afro-vénézuélien organisé par la médiathèque du Teil et la SMAC. Au cœur de ce rendez-vous du coup vendredi, donc demain à 18h à la médiathèque.
C'est une conférence gigantesque femmes, culture et musique. Conférence à la médiathèque autour de ces notions. On va essayer de comprendre comment est né ce métissage musical. Et puis,
Et c'est suivi d'une projection.
Alors, on fait 250 mètres. On se déplace vers le cinéma après la bibliothèque. On va au cinéma donc du Teil pour la projection
de Que Vuelan Vuelan.
Voilà, qui est un documentaire la solitude, autour de la sorcellerie dans une favela de Caracas. On n'en dit pas plus, vous découvrirez ce documentaire donc projeté demain soir au cinéma du Teil à 20h30.
Et donc, en ma qualité d'intervenant hispanophone, je vous propose d'écouter tout de suite Paranda La Cruz, qui seront donc en concert samedi avec la SMAC à la Caravane Monde du Teil. On les écoute tout de suite sur Fréquence 7 avec le titre Aguacero. Thank you.
madre me ofreció. En el momento preciso que nació mi corazón, nació el entendimiento, la palabra y la razón. ¡Ale! Lanzo estos versos al viento, cantaré a mi tierra amada hasta mi último aliento, al ritmo del quitiplá, la maraca y el tambor. El corazón y la verdad tienen un solo color. ¡Ale!
On vient d'écouter la musique afro-vénézuélienne de Paranda La Cruz avec Orlando Poleo, le percussionniste qu'on entend bien derrière, avec ce titre Aguacero, Aguacero qui veut dire l'averse. Paranda La Cruz, donc, qui sort son premier album le 21 avril 2023. Et en attendant, dès après-demain, vous pourrez le voir à Auteuil, puisque c'est un événement de la SMAC.
Et donc au cœur de ce mélange de cultures, des vagues et des vagues d'immigration, ça nous amène à notre sujet du jour. Nous avons reçu en studio Hervé Gio, le président du MRAP, qui nous présente les activités de son association, les enjeux actuels et leur position sur le projet de loi sur l'immigration qui est en ce moment en débat. Donc nous sommes aujourd'hui avec Hervé Gio, qui est le président du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Le MRAP, c'est une structure qui est présente à Aubenas depuis 35 ans et c'est le principal recours en Sud-Ardèche pour les questions d'immigration, mais également de lutte contre le racisme. Vous avez aussi une mission culturelle. Bonjour Hervé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ?
Oui, bien sûr, bien volontiers. Je tiens d'ailleurs à remercier dès maintenant Fréquence 7 d'avoir pensé à nous solliciter aujourd'hui sur cette thématique de nouvelle loi immigration qui n'en finit pas d'être modifiée. C'est la 28e loi sur ce thème depuis 1980, rappelons-le quand même. Ouais. C'est assez... Alors, dans un premier temps, la question, oui, donc le MRAP Aubenas... Qui a pour vocation depuis plus de 35 ans sur Aubenas d'être les principaux initiateurs de cette culture de lutte contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Elle se traduit effectivement sous plusieurs formes, même si la plus énergivore est celle qui nous conduit à accueillir dans nos permanences dites juridiques. Alors, si nous ne le sommes pas, nous sommes quand même fondés à par notre travail en réseau avec des avocats, des juristes. Nous étudions régulièrement, nous mettons à niveau régulièrement donc de l'évolution des lois. Donc, on a encore beaucoup de travail. on en parlera. Nous fait pas oublier aussi notre vocation première qui était de lutte contre le racisme. Et donc nous intervenons aussi dans ce cadre, donc on propose plusieurs animations, des interventions en milieu scolaire, qui bien évidemment s'est un petit peu freiné, mais je vous rassure, on est encore sur le terrain et beaucoup d'initiatives dans ce sens.
Des événements culturels aussi.
Oui, donc nous sommes en partenariat avec le cinéma Le Navire, donc vous aurez bientôt d'autres infos à diffuser sur des projections de films qu'on accompagne de débats, de rencontres. Je vous parlerai aussi peut-être bientôt de notre assemblée générale annuelle qui nous permettra de nous relancer dans ces multiples activités dont malheureusement l'actualité nous place encore
En première ligne.
En première ligne, et c'est avec beaucoup d'émotion, parce que face à ces lois discriminatoires qu'on ne cesse de contrer, de rendre plus humaines, on se rend compte que là, la démagogie l'emporte, et la nouvelle loi qui va être présentée risque de durcir encore considérablement la situation, mais
des personnes on en parlera. Ouais, moi je voulais du coup revenir sur le rôle principal aujourd'hui du MRAP, c'est une permanence juridique qui s'adresse du coup aux personnes présentes sur le territoire français, en situation régulière ou pas, qui font face à tout le parcours administratif et bureaucratique pour obtenir droit de cité chez nous. Vous les accueillez, on peut vous appeler, on peut prendre rendez-vous au MRAP et vous charger des parcours administratifs.
Dans le premier temps, on se charge de recueillir des informations, de donner les bonnes réponses sur... Chaque personne a une histoire, un parcours, a des droits différents, qui sont régis dans ce qu'on appelle le CESEDA. C'est la Bible utilisée par les préfectures, donc qui régissent toutes les règles d'entrée, de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Alors, on intervient... moins maintenant sur les demandes d'asile, puisque ça nous est arrivé lorsqu'il y avait le CAO d'Evance, le centre d'accueil et d'orientation. Il nous arrive encore d'accompagner, donc au moins de donner les renseignements. Après, on est parfois qu'une passerelle, c'est-à-dire que une demande d'asile, on sait où renvoyer, donc c'est auprès d'une association donc sur Lyon.
C'est ça, vous êtes en lien avec différentes structures, en fait, vous les accueillez et puis vous les orientez vers telle et telle structure.
Exactement.
En ayant pris en compte tout leur parcours.
Oui, alors après, c'est. Comme je vous le disais, c'est vraiment des situations qui sont toujours très particulières. Et à titre d'exemple, là, cette semaine, on a accueilli une jeune fille qui vient du Liberia, qui vient d'être... qui nous dit être mineure, ce qu'on croit aisément, il n'y a pas de raison, et qui vient d'être rejetée du foyer d'accueil de Privas. Donc, elle est en situation d'hébergement d'urgence, mais elle a encore des droits à faire valoir. C'est-à-dire qu'à chaque décision administrative, il y a une possibilité de déposer un recours.
Toujours un recours administratif.
Là, en l'occurrence, ce n'est pas un recours administratif, c'est un recours juridique, donc auprès du juge des enfants, qui nous permettent de déposer recours pour contester la décision du conseil départemental. puisque les décisions de rejet de l'acte de prise en compte de la minorité sont souvent fondées sur un seul entretien d'évaluation à charge, et ou simplement la personne qui est évaluée, si physiquement elle paraît ne pas avoir 18 ans, alors sur des critères qui ne veulent absolument rien dire. Donc nous, on est là pour les accompagner, pour les aider, leur faire savoir tout simplement qu'il y a une possibilité de recours pour les faire admettre à leur minorité. Alors là, c'est aussi, ça enchaîne une action de solidarité, puisque là, on est sur du long terme, sur une période d'au moins 6 mois, où ces personnes se retrouvent sans droit, sans aucun droit. Et il faut pourtant qu'elles vivent, qu'elles soient logées, nourries, et pendant 6 mois. Le système actuel ne prévoit rien, c'est-à-dire que ces personnes qui peuvent encore prétendre avoir la protection de l'État français, le temps de leur recours n'ont aucun subside. Donc c'est là où on intervient, donc pas seulement sur le volet juridique, c'est-à-dire la saisine du juge, l'accompagnement donc du dossier, donner des motivations, préparer la personne à faire valoir ses droits. Mais c'est aussi le réseau d'hébergement souvent qui nous permet de maintenir l'espoir.
Et c'est une solidarité citoyenne. Vous mobilisez un réseau affinitaire de personnes qui pourraient héberger temporairement d'autres gens.
Alors tout à fait. Donc le mot citoyen est celui qui s'impose. Ouais. Donc je rappelle qu'on est une structure composée uniquement de bénévoles.
Une douzaine de bénévoles.
Oui. Donc nous sommes une quarantaine d'adhérents et d'adhérentes. Avec environ une douzaine de personnes très investies, et pas que des retraités, donc ça fait plaisir. On a aussi obtenu que des jeunes personnes s'impliquent. Ouais, s'impliquent. Donc on a ce travail de fond, alors qui donne des résultats parfois. Il s'avère que nous ne donnons pas de faux espoirs. Hein. Nous recevons dans nos accueils des personnes dont les situations ne nous permettent pas de leur donner d'autres conseils que de rentrer ou de vivre comme plusieurs centaines de milliers de personnes le font en France dans la clandestinité.
Ouais. Pour qu'on se représente un petit peu, alors je suis désolé, je vais parler chiffres, mais vous occupez, vous accompagnez à peu près de combien de personnes par an pour qu'on ait une idée un petit peu ici en Sud-Ardèche?
Alors on n'a pas de statistiques, c'est un domaine où... Après, on a une évaluation, donc on... Et puis, c'est sur un panel qui va du simple renseignement, c'est-à-dire...
Une information
donnée sur... aider à la prise de rendez-vous à la préfecture, sécurisée, jusqu'à des dossiers très très lourds qu'on traîne, entre guillemets, parfois plus de 10 ans. Hein. Là, on a... À titre d'exemple, un dossier qu'on avait à notre charge depuis 17 ans et qui vient d'être régularisé.
Une personne seule qui cherchait.
Oui, okay. oui. Alors, donc, le nombre, je dirais qu'on a un volume de dossiers qu'on suit annuel d'une trentaine de situations lourdes ou semi-lourdes.
Avec effectivement, à chaque fois, vous le soulignez, des parcours très très différents. Donc ce ne sont pas des cas, mais ce sont vraiment des personnes avec des parcours qui demandent un accompagnement singulier quoi, à chaque fois.
Du coup, quels sont les recours qui s'offrent à une personne qui arrive en fin de droit, sur son statut en France? Aujourd'hui, c'est des recours administratifs qui permettent de contester les décisions de la préfecture. Donc la préfecture prend une décision d'expulsion. Une obligation de quitter le territoire français, les OQTF, et une personne qui est sous le coup d'une OQTF peut faire appel à vous pour un soutien juridique auprès d'un tribunal administratif.
Exactement. Alors ça, c'est le droit français qui malheureusement, à la lecture de l'avant-projet de loi, enfin du projet de loi maintenant, puisqu'il a été
présenté hier.
Donc peut-être que si on a le temps, on y reviendra un peu plus dans le détail. Mais effectivement, notre rôle, on travaille donc avec des avocats spécialisés dans le droit des étrangers, qu'on remercie vivement parce qu'ils sont dans le travail qu'ils effectuent, donc auprès de nous, c'est de la formation, mais c'est aussi d'accepter de prendre en charge nos dossiers. Donc tous ne le font pas, donc il y a la fameuse aide juridictionnelle. Oui. Les avocats ne sont pas soumis à l'obligation de l'accepter, en sachant que les personnes qui viennent nous voir n'ont bien évidemment pas les moyens pour la plupart de payer des frais d'avocat. Donc on travaille avec un réseau d'avocats auprès du tribunal administratif de Lyon, puisque tout ça, le droit des étrangers, c'est un droit d'exception, je vous le rappelle, et les seuls recours juridiques possibles se font auprès du tribunal administratif de Lyon en ce qui nous concerne. Et alors parfois, c'est à faire dans des délais, il y a des délais parfois très très courts pour les recours. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, en principe on a 30 jours, mais pour des cas particuliers, on a 48 heures.
Pour contester une OQTF.
Pour contester une OQTF.
Ah oui, c'est
donc
très, très,
c'est
très
parfois
rapide.
Très très chaud, c'est parfois très très chaud. Ah oui, parce qu'une OQTF qui a été signée par exemple un vendredi à 16h, on a jusqu'au dimanche à 16h.
Et, oui.
Et chaque minute compte.
Voilà. Oui, ce n'est pas des jours ouvrables, c'est des vrais jours.
Voilà. Chaque jour compte. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de la rigueur dont on a besoin et du travail énorme que ça peut représenter face à des personnes qui viennent nous voir en situation de désespoir, de désarroi. Et donc le premier recours a la particularité d'être suspensif, c'est-à-dire que la décision du préfet n'est pas applicable, donc la décision de renvoi. Après, sans trop rentrer dans les détails, il y a aussi, c'est assorti souvent d'une décision d'assignation à résidence, c'est-à-dire avec l'obligation de se présenter une à plusieurs fois par semaine auprès du commissariat. Donc c'est là aussi où on intervient pour soutenir ces personnes et parfois avec de bons résultats, parce que même si le juridique ne fait pas tout, et je rappelle c'est juste administratif, hein, c'est souvent sur des motivations infondées du préfet qui a souvent tendance à faire des copier-coller sur des demandes, sur des dossiers qui sont jamais pareils.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, enfin, ou au plus simplement, ce qui va changer, ce qui peut changer avec la nouvelle loi sur l'immigration ?
Alors, on précise, donc ce projet de loi qui a été proposé, qui a été présenté mercredi, et qui va être soumis au vote au Sénat en mars, puis à l'Assemblée nationale en mai ou juin. Donc c'est projet de loi porté par le gouvernement, qui a deux volets, semble-t-il, dans cette loi. Hein. C'est ce qui fait dire à Darmanin qu'il va être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Un premier volet plus restrictif qui va faciliter l'éloignement des étrangers qui ont commis des actes de délinquance graves et d'autres propositions. Et en même temps, des mesures de régularisation, des mesures économiques qui vont permettre de proposer des contrats à des personnes sur des métiers en tension, à des immigrés sur des métiers en tension.
Oui, alors je vais vous répondre très rapidement parce que je crois que le temps tourne. Bien évidemment, on le condamne, ce projet de loi. Il, comme je l'expliquais, il va durcir encore les conditions. Et même sur le volet dit plus humain, c'est-à-dire de permettre à quelques milliers de personnes d'être régularisées parce qu'elles travaillent en France, je rappellerai juste que ces dispositions existent déjà maintenant. Alors, par l'intermédiaire de circulaires, donc qui dit circulaire dit qu'il faut vraiment que l'on bataille, Mais donc, je pense que c'est un effet d'annonce qui... Et nous, ce qu'on dit dans nos permanences, méfiez-vous, c'est un miroir aux alouettes qui ne va pas résoudre la situation de plus de 400 000 personnes qui, depuis des années, voire des décennies, se maintiennent sur le territoire parce qu'elles n'ont pas le choix, mais qu'elles contribuent aussi à la vie économique du pays. Donc on est loin d'un plan de régularisation, comme c'était le cas avant. Et alors, ce qui nous préoccupe le plus encore, c'est sur le rétrécissement du recours à la loi. Et ça, c'est très, très inquiétant. Quand on veut, sous un aspect, dit ben, c'est bien la CNDA, c'était une grosse boîte à Paris, tout le monde monte à Paris...
Donc la CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile.
Voilà, donc c'est uniquement pour les personnes qui postulent à la protection politique. C'est l'asile, la demande d'asile, pour obtenir le statut, c'est le statut de réfugié politique. Donc c'est environ 100 000 demandes qui sont déposées par an. Donc d'abord à l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Et le recours juridique, c'est la CNDA. Donc tout ça, on veut le réduire. Alors, par exemple, donc, la CNDA...
On veut réduire le nombre de recours possibles.
De manière générale, oui. Donc on veut réduire le nombre de recours. Et sous l'aspect... les demandes sont instruites, il faut beaucoup trop de temps, donc on dit c'est pas normal, il faut vraiment que les droits puissent être statués beaucoup plus, enfin examinés et statués beaucoup plus vite. Mais là aussi, on se moque de nous, parce qu'on va réduire le rôle protecteur de la justice, puisque en délocalisant donc cette CNDA et avec une des garanties légales qui était quand même les plus importantes. C'est qu'on va se retrouver maintenant avec des juges uniques. D'accord. Et hors accompagnement de structures comme le Haut Commissariat aux réfugiés qui pouvaient assister. Okay. Et pour nous, c'est une ineptie.
D'accord. Je comprends. Je suis désolé, il va falloir qu'on termine cet entretien doucement. Sophie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ?
Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir votre point de vue donc, sur ce texte. Vous nous avez sorti quelques points qui vont rendre les choses encore plus difficiles pour les immigrés, pour les demandeurs. À la fois pour les demandeurs d'asile, et d'après vous, ça ne va absolument rien changer pour les travailleurs ici, en France.
Je vais être très clair, à la marge, à une petite marge, mais d'ailleurs c'est annoncé. Olivier Dussopt dit ça n'excédera pas quelques milliers.
D'accord, donc c'est juste pour faire passer...
C'est un effet d'annonce,
tout
voilà.
À fait. Oui. C'est pour faire passer cette loi, pour l'habiller un petit peu avec de jolis vêtements.
Et quant au fait de faire exécuter les OQTF, alors, je rappellerai juste que la France est le pays d'Europe qui prononce le plus d'OQTF, alors avec un taux de réussite peu important. Donc on veut améliorer, certes, mais quand on voit que des OQTF non exécutables sont prises tous les jours, donc non exécutables, c'est-à-dire des OQTF prises à l'encontre, par exemple, d'Afghans ou d'Iraniens, dont la France est engagée à ne pas les renvoyer. Donc c'est ce discours démagogique qui nous... Mais qu'on va continuer à combattre, bien sûr.
Merci beaucoup.
Fais-moi.
Merci, Hervé.
Au plaisir.
Merci, Hervé.
Voilà un vaste sujet qui demandera sans doute encore d'autres interventions ici dans l'onde curieuse. Eh bien.
Pour la suite de la journée, c'est la fin de ce magazine. N'oubliez pas de retrouver à 15h le Telex, donc c'est notre répondeur. N'hésitez pas à appeler, laisser des messages, des coups de cœur, des coups de gueule, parler des sujets qui vous importent. 04 75 93 30 25.
Et puis bien sûr, vous pouvez réécouter l'émission d'aujourd'hui, L'Onde Curieuse, à 17h en rediff. Et après, autant que vous voulez, en replay sur le site de Fréquence 7. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Sylvain.
Merci, Sophie. Rendez-vous demain midi pour le Cinémascope, c'est ça ?
Midi 10 pour le Cinémascope, oui. Et puis, L'Onde Curieuse, eh ben, c'est reparti lundi. Bon week-end à tous et à toutes.